Les Agités du Mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les Agités du local du mois.
Je cherche, je cherche, je cherche une chanson à mon image. Je cherche, je cherche, je cherche une chanson, un double vage.
Place au feuilleton avec toi Claire, cette semaine. Le studio vidéo de la ville de Laval, qui a été créé en avril 1981, nous ouvre ses portes.
Et oui, c'est 40 ans d'archives audiovisuelles. C'est ce que nous propose de découvrir Stéphane Piau, vidéaste pour la ville de Laval depuis 35 ans déjà. À l'occasion de cet anniversaire, le vidéaste réalise un film sur la ville de 1920 à 1980. Aujourd'hui, il nous explique les étapes techniques de fabrication d'un documentaire d'archives.
La première étape, ce qui n'est jamais évident, on ne fait pas un documentaire historique sur Laval sans prendre le soin d'avoir le nombre suffisant d'archives. Et ça, c'est un travail colossal. On travaille depuis 35 ans avec les cinéastes amateurs et les cinémathèques. Et chose surprenante, on pourrait penser qu'au bout de 35 ans, on a fait le tour. Et à chaque fois, on retrouve des vieux trésors qui sommeillent encore dans les tiroirs ou les greniers de familles lavalloises. On se battait depuis longtemps avec le Conseil des Sages, la municipalité et moi-même pour numériser au plus vite les prises de vue, sans quoi on aurait pu perdre des vrais trésors audiovisuels de la ville de Laval. Et donc, toutes ces archives, les plus de 1500 cassettes, sont numérisées et mises sur des disques d'archivage informatique. Quand on a suffisamment d'archives, on se décide de faire un clip sur Laval ou là un documentaire historique. Mais aussi, bien sûr, il est important d'archiver et de laisser une trace audiovisuelle. Après, c'est la sensibilité du réalisateur, des historiens. Mais forcément, il faut qu'on fasse un petit scénario, un commentaire, voir les prises de son, les choix des musiques, rencontrer des témoins pour qu'ils nous aident dans le commentaires et puis de savoir ce qu'ils ont vécu sur place pour ne pas tronquer l'histoire de la ville. Pour les films qui datent de 40 ans, évidemment j'étais sur les lieux de tournage donc je me rappelle à peu près de ce qui s'est passé, mais c'est pour les films qui sont antérieurs à 1980 et donc là forcément on fait appel à la mémoire des témoins lavallois. On travaille avec des historiens du service patrimoine de la ville de Laval, les témoins lavallois comme je vous ai dit, on a à peu près 50 ou 60 témoins avec qui on travaille régulièrement. On travaille avec d'autres services municipaux comme les archives municipales et départementales, d'autres services, des élus qui viennent valider aussi le film. Faut vraiment avoir le feu vert de la municipalité pour faire des films comme ça. On passe du temps, donc faut que tout le monde tire dans le même sens. De 81 à 1991, donc 10 ans, on le tournait en format U-matique 3/4 de pouce. Donc de là, on a à peu près 350 cassettes en rush prise de vue et à peu près 130 master films. On a fait des films à partir de ces prises de vue. Et donc ça, c'est ce premier format. Après, de 91 jusqu'à 2010, avant de passer sous l'ère du numérique, on filmait en format Betacam SP. Donc là, c'est encore plus énorme, comme vous avez pu le voir. On a 815 cassettes de 30 minutes en rush prise de vue et à peu près 150 master films, là où on a fait des documentaires ou des clips sur la ville de Laval. Donc nous, on travaille avec le logiciel Final Cut Pro et donc on fait des choix de musique, on essaye d'amener déjà toutes les images, et les musiques, les sons sur l'ordinateur. Et puis après, c'est un choix drastique avec les historiens, les témoins lavallois. Le plus dur, souvent, c'est que moi, j'aimerais bien faire plus long, mais à chaque fois, on me dit de couper, que ça va être trop long. Et c'est un crève-cœur de couper dans des vrais trésors historiques, quoi. Là, on en est rendu au 8e film historique et tous les films ont été projetés. Et à chaque fois, à notre grande surprise, on a eu énormément de monde à la salle polyvalente. On a même sorti des DVD après. Et c'est de l'ordre de 3000 à 4000 DVD à chaque fois que l'on vend. Donc c'est fabuleux. Et moi, je suis convaincu, là, c'est les Lavallois, mais je suis convaincu que les Français aiment l'histoire et le patrimoine de toute leur ville.
Maintenant que nous savons comment réaliser un film d'archives, rendez-vous demain pour visionner, enfin écouter, le film Laval de 1920 avec Stéphane Piau.
Faudrait qu'elle soit jolie, ma mélodie. Faudrait qu'elle soit plus belle qu'une ritournelle. Faudrait qu'elle soit séante et élégante. Faudrait qu'elle y ajoute, s'ajoute.
Hier, on a pu comprendre comment réaliser un documentaire d'archives. Aujourd'hui, on visionne, ou plutôt on écoute, pour la première fois rien que pour vous, quelques extraits du film Laval Rétro de 1920 à 1980, toujours accompagné des commentaires de Stéphane Piau, le réalisateur.
C'est parti pour le son. C'est une fête des fleurs en 1920 dans les rues de Laval. Donc c'est un film qui nous a été donné par la Cinémathèque Gaumont. Donc là, ce sont des chars, vous avez vu, super bien décorés, fleuris, qui déambulent dans les rues de Laval. Et vous voyez, les rues sont noires de monde. Alors on va encore plus voir tout à l'heure quand ça va être en centre-ville. Là, ils passent devant les Halles, devant le magasin Saint-Rémy, où maintenant il y a Burton, et devant l'hôtel de ville. Et donc là, ils vont remonter place Madès-France, où il y a maintenant l'hôtel de police et la poste. Il y avait un ancien vélodrome, et c'est là où se passaient donc toutes les cérémonies de fête des fleurs. Allez, on va aller chercher un autre son, c'est parti. Un rallye ballon en 1934 sur la place de la mairie. Film assez original qui nous a été donc acheté à la Cinémathèque de Bretagne. On peut voir les tenues vestimentaires de l'époque, les véhicules, les voitures. Et voilà, la montgolfière qui s'en va. Et donc là, un saut authentique, je vous laisse découvrir le championnat de France des 50 km avec le commentateur de l'époque.
C'est dans la jolie ville de Laval, baignée par la Mayenne, que se dispute le championnat de marche des 50 km sur route. Le départ est donné à 31 concurrents. La course se poursuit à travers de charmants paysages, par un temps splendide, tout à fait favorable à la promenade. Après une boucle de 6 km autour de la ville, Gibert se présente le premier à l'arrivée après avoir accompli le parcours en 4 heures 38 minutes 45 secondes. Il reçoit une double récompense, un baiser et un bouquet.
Et donc là, film très rare dont on peut être fier d'avoir des images, c'est la libération à la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Donc ils filmaient, ils photographiaient beaucoup à l'époque dans les villes et les villages. Et donc nous, on a pu acheter à l'ambassade américaine la libération de Laval à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a encore les combats avec les Allemands. Et on va les voir, là, vous voyez, ils vont encore combattre et pour libérer Laval sur les quais. Donc là, on est au Square Foch où se passent les cérémonies. Ils traversent pour aller sur les quais. On est le 3 août. Le pont a été complètement coupé en deux. Donc on a des archives fabuleuses, même c'était au-delà de mes espérances tout ce que j'ai pu récupérer. On a carrément des vidéos sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc là, il passe sur le vieux pont, ça y est, Laval est libéré. Et ce qui est important, le Tour de France va arriver donc cette année, et donc on a les archives du Tour de France en 52, filmées par un cinéaste amateur, place de la mairie. Et il est sonorisé parce que c'est la Cinémathèque Gaumont.
Deuxième étape, Rennes-Le Mans, 181 km. Après une échappée, un peloton de 16 coureurs regroupés traverse la Mayenne à Laval. L'équipe belge se lance alors à l'attaque et remonte rapidement vers le peloton de tête.
Des fêtes de la jeunesse, donc on en a beaucoup. Donc les premières dès après-guerre, quoi. Donc vous voyez là, c'est pareil, c'était bondé de monde. Là, on est sur le pont Neuf et donc on déambulait. Moi, j'ai participé aux fêtes de la jeunesse dans les années 70. Donc on partait de nos écoles et on se retrouvait tous en centre-ville pour faire un grand défilé. Et après, on se retrouvait au stade Francis Lebasser pour faire un petit peu nos shows. Ça va être la fin. On a un clip qui présente Laval dans les années 80. Film à l'époque que nous avions réalisé, qui a été primé au Festival du Scoop à Angers. Donc évidemment, il a bien vieilli, mais à l'époque, on avait utilisé toutes les ficelles de montage et d'effets spéciaux. Donc il est forcément en décalage maintenant, mais c'est un film d'époque. Donc beaucoup d'effets spéciaux, hein, d'images qui bougent beaucoup, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et donc là, le documentaire se terminera là-dessus. Voilà un aperçu du film. Il y a encore un peu de travail à faire, mais ça devrait tourner un peu autour de ça.
Voilà, donc on l'a entendu, un aperçu du film Laval Rétro de 1920 à 1980 qui n'attend que la réouverture des salles communes pour être diffusé à la salle polyvalente de Laval. Demain, on écoute un des films du studio le plus connu, La Seconde Guerre mondiale et les 50 témoins lavallois.
Je cherche, je cherche, je cherche une chanson belle parole. Je cherche, je cherche, je cherche une chanson des paraboles.
Donc c'est parti, il faisait 53 minutes, petit clin d'œil à la Mayenne. On me demande souvent quel film sur les 8 films historiques me plaît ou me dissuade le plus, c'est sans doute celui-ci, qui est chargé d'émotions, parce que, je vous dis, il y a une richesse incroyable d'images, de photos, de vidéos, de cartes postales de la Seconde Guerre mondiale. C'est aller au-delà de mes espérances. Et puis, il est bonifié par le témoignage des 50 témoins lavallois.
Il y a les épouses, il y a les enfants qui veulent voir leur père partir, puisque beaucoup, quand même, étaient des résidents lavallois, bien que Laval était beaucoup plus petit que maintenant.
Vous pouvez le voir, on voit des images actuellement de soldats partant à la Seconde Guerre mondiale qui a été filmé par un cinéaste amateur qui filmait le départ de son fils. Donc c'est fabuleux de revoir ça, quoi. Et on est au départ à la gare et là ils montent dans les trains et ils partent à la guerre. Et pour certains, ils n'ont jamais revu leur fils, leur père, leur frère. Donc forcément c'est très touchant. Et donc on va, ces 50 témoins que l'on peut voir et entendre dans le film, on va avec 3-4 témoins à chaque fois dans les classes, ils vont nous raconter tout ce qu'ils ont pu vivre. Et on va aussi avec des historiens du service patrimoine, les collègues du service patrimoine de la ville de Laval, qui viennent rajouter un plus sur l'historique et l'histoire de la ville.
Ils sont restés quelques jours à la maison.
Petit clin d'œil, on vient de voir Madame Bongard, qui est une témoin de Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu comment elle s'exprime bien. C'était mon ancienne prof de maths au collège des Fourches, et je l'ai retrouvée par hasard. Et donc maintenant, on ne se lâche plus, elle m'accompagne souvent dans les écoles, donc c'est assez marrant. Là, ce qu'ils sont en train de vous expliquer, les témoins lavallois, c'est que c'est en ce moment donc, l'invasion allemande. Donc les rues de Laval, ils sont en train d'expliquer que ce n'était pas facile, quoi. Ils mitraillaient les trains, il y avait une pénurie de denrées, ils avaient du mal à trouver à manger. Donc Madame Pelan est attachante aussi, elle vient souvent m'accompagner dans les écoles. Donc là, ce sont des photos de son école où on les voit manger à la cantine dans les réfectoires. Pratiquement au témoignage, à chaque fois, il y a une image à coller dessus et ça, c'est très très rare, quoi.
Pouvez-nous nous raconter la bataille quand les Américains...
Donc là, on a fait une reconstitution avec une association WW2. On a fait venir des véhicules américains habillés en tenue américaine. Ils étaient donc à l'école de Grenou et on a reconstitué comme si on était à la libération des Américains.
Et on sait que ça se battait dur.
Et donc là, les enfants sont en train de poser des questions aux 3 témoins lavallois qui étaient à Grenou et qui ont vécu l'arrivée des Américains. Moment fabuleux. Surtout que ça fait donc 4 ans qu'il a été réalisé et je ne vous ferai pas de dessin. Forcément, ce sont des gens qui avaient déjà, à l'époque, 90-100 ans et la plupart, hélas, nous ont quittés.
Vous savez, l'absence de mon père, pour moi, c'était terrible. C'était encore plus terrible que je m'étais rendu compte que beaucoup de mes copains, leur père n'était pas prisonnier. Pourquoi ? Pourquoi eux n'étaient pas prisonniers et le mien l'était ?
Le plus grand souvenir pour moi, c'était d'arrêter mon père. Là, ça peut passer. Et ça passe toujours pas.
Donc, comme vous pouvez le voir, c'est chargé d'émotions. Là, il racontait qu'en fait, à la Seconde Guerre mondiale, ils sont venus chercher son papa, il ne l'a jamais revu. Donc forcément, ça touche beaucoup, quoi. On a tissé des liens très forts et c'est vraiment une belle aventure humaine qu'on en a vécue à travers ces témoignages. Ça restera toujours gravé à vie.
Un moment très émouvant, donc on retrouve demain Stéphane pour nous expliquer ses missions au sein du studio vidéo municipal, notamment autour de la transmission et de la mémoire.
Que battent les tambours, que cinglent les cymbales, que grattent les ribèbes, que claquent les crotales.
Ces liens intergénérationnels sont très importants et très émouvants. À chaque fois qu'on va dans les écoles, c'est des rencontres fabuleuses. Les jeunes générations, c'est « Oh là là, comment ils étaient habillés ? Ah mais ce bâtiment-là, il n'existe plus, c'est quoi ça ?» et tout ça. Donc ça interpelle et en même temps, ça fait avancer le truc, quoi. C'est important de faire de la transmission de la mémoire. À chaque fois, ces rencontres intergénérationnelles avec les témoins lavallois que l'on fait venir dans les écoles ou qui viennent ici au studio vidéo faire part de leurs témoignages, c'est toujours des rencontres fabuleuses et chargées d'émotions avec les jeunes générations. Avec leurs enseignants, les enfants préparent à l'avance leurs questions et tout. Donc il y a une sorte de question-réponse, un échange vraiment très très émouvant à chaque fois, des rencontres fabuleuses. Souvent on me dit « mais tu vas saouler les jeunes avec l'histoire, la transmission de la mémoire ». Ils s'en foutent royalement et non pas du tout. On se rend compte qu'ils sont très 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 demandeurs et très respectueux des anciens et de l'histoire, quoi. On va démarrer l'officialisation de la transmission de la mémoire et la découverte des technologies Colonie Jumelle, j'y tiens parce qu'on fait à la fois de l'histoire et du patrimoine sur la ville de Laval, mais en même temps, la découverte des technologies nouvelles à travers l'univers du montage, du tournage et tout ça, parce qu'ils sont très demandeurs, ils ont ça à leur programme. Donc là, on va commencer les premières animations et projections débats et rencontres avec les témoins et les historiens de la ville de Laval dès février ou mars dans les écoles primaires, privées et publiques de Laval. Aussi la sauvegarde de l'enfance qui travaille avec les réfugiés et tout ça qui sont venus ici découvrir, et je pense qu'il y a des choses à faire. Et on a aussi une demande de l'inspection académique et de l'enseignement catholique pour le développer dans les collèges et les lycées. Et on travaille aussi beaucoup avec les maisons familiales rurales, notamment à Saint-Berthevin depuis des années. Donc au mois de juin, on faisait nos grandes rencontres avec toute leur classe de 3e. C'était des rencontres vraiment énormes à chaque fois. Et là, ils nous ont demandé avec la municipalité, c'est sur le point d'aboutir, à développer davantage avec l'ensemble de leur classe. Dès février-mars, on va se cantonner à ça. Et j'ai une grosse demande aussi des EHPAD qui souhaiteraient développer ce genre de transmission de la mémoire. Il y a une grosse attente. Je ne cacherai pas que quand ils voient des familles qui sont décédées depuis, des amis, forcément c'est émouvant pour eux. Et quand on a fait le film Seconde Guerre, forcément on leur appelle, on leur ravive des souvenirs assez qui leur prend en trip, quoi. Vous savez autant bien que moi que maintenant tous les poilus lavallois et les témoins lavallois de la Première Guerre sont tous décédés. Et si on n'immortalise pas ces souvenirs, ce sont à tout jamais des mémoires qui sont perdues. Donc il y a tout ça, c'est forcément un gros travail, mais c'est archi passionnant et on s'en lâche jamais.
Ce travail de mémoire n'était pas forcément la vocation de Stéphane, et pourtant il y travaille au studio vidéo depuis 35 ans. On découvre demain pourquoi.
Que corrissent les corps, que grattent les guitares, que jouent les bignoux, que si les sitars. Je cherche, une chanson à ma convenance. Je cherche, une chanson à ma cadence.
Alors c'est parti pour le son. Laval-Kiev, match de Coupe d'Europe.
19h, la nuit vient, les deux équipes sont là et il en arrive encore de partout. Côté ambiance, ça baigne.
Messieurs, vous nous invitez ?
Les bracos, si vous voulez.
Ah, si vous voulez.
Si vous voulez. C'est
vous
du produit.
Depuis quelle heure ?
C'est du produit Magnéné, vous voyez.
Séné est contré par Baltacha, Yank en profite pour d'une pichenette prolongée sur Souto, qui marque le but historique du stade Francis Lebasser. La joie de Christian Felsi, au passage. Et puis le président Bisson et Michel Lemillinaire, eux qui se disent que ce n'est pas...
C'est que j'ai joué 10 ans au stade Lavallois. Et donc j'ai joué en levée de rideau juste avant ce match-là. Et c'était un souvenir inoubliable. J'ai toujours été passionné par l'histoire. Alors comme je vous disais, j'étais plutôt destiné à devenir sportif parce que j'étais pas loin de rentrer au centre de formation du stade Lavallois avant d'avoir une grave blessure au genou. Et hélas, à mon époque, j'avais un peu délaissé l'école, était un peu fâché avec moi, on va dire. Mais j'ai toujours aimé la vocation de l'histoire et d'aimer ma ville surtout. Ça m'a toujours attaché. On me demande souvent... pourquoi je suis venu à la passion pour la vidéo et le cinéma. Et en fait, mon papa avait une caméra dans les années 70-80. Il a filmé beaucoup. Et je pense que ça a peut-être suscité une vocation, le fait de le voir. Alors hélas, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je ne les ai pas montés, mais on les a fait numériser. Donc toute sa collection de vieux films sur la famille. On a des mariages, des communions, des grandes fêtes de famille, des voyages, des vacances. Et donc ça fait des super souvenirs. À chaque Noël ou quand on fait des grands repas de famille, on passe des diapos, parce qu'il faisait aussi des diapos et des vieux films. Donc c'est toujours des beaux souvenirs. J'ai des collègues de la ville et de l'agglo qui me demandent encore de filmer des mariages ou des choses comme ça, mais maintenant c'est terminé. Souvent, même moi maintenant, je filme plus, je photographie plus, c'est mes enfants et ma femme qui font ça. Je suis un passionné de l'histoire, je suis né à Laval, j'ai toujours vécu à Laval. On ne ferait pas ce métier si on n'est pas passionné. J'ai jamais eu cette ambition d'être fier de mes films, mais ça fait plutôt chaud au cœur, ouais, de rendre l'appareil et de voir qu'en face, ça répond bien, quoi. Plein de projets dans la tête, faire un petit film sur les fêtes à Laval, sur les travaux dans les quartiers, sur les inaugurations, sur les hommes célèbres, sur le sport à Laval. Ouais, je pense qu'on va plutôt ressortir maintenant par thématique. Et ça peut vraiment plaire énormément aux Lavallois et aux jeunes générations. Comme beaucoup de gens connaissent, je ne travaille pas pour moi, je travaille justement pour ce genre de choses, pour retranscrire la mémoire de tous les Lavallois et de leur faire honneur. C'est pour ça que je travaille, c'est pas pour autre chose. Au début, c'était pas du tout cette vocation, j'y pensais même pas. Et au fil du temps, comme j'arrive plutôt en fin de carrière, je me dis que c'est pas trop mal, quoi.
un feuilleton qui s'achève, mais le studio vidéo est toujours à la recherche de pépites audiovisuelles. Si vous trouvez quelque chose dans vos greniers, n'hésitez pas à contacter le service communication au 02 43 49 47 59. Stéphane et son équipe se feront un plaisir de retranscrire vos archives dans de beaux documentaires.
Je la voudrais danser d'un autre pas de deux. Je la voudrais choyer par mes chers aïeux. Je la voudrais chanter avec un verre de cidre. Que toque le tocsin, que sonne l'éclipsidre. Je cherche, une chanson qui me ressemble. Je cherche, une chanson qui nous rassemble.
Annoncé en début de cette émission, on fait un mini feuilleton. Hein. Vraiment, c'est l'histoire de trois petits épisodes autour des gestes écolos à faire ici en Mayenne en valorisant ces produits mayennais. Et aujourd'hui, on laisse la parole à celle qu'au début on prenait pour une extraterrestre avec ses savons il y a 10 ans à Mayenne. Florence Ancry, la fondatrice des savons de Raphaël il y a 10 ans effectivement. Et aujourd'hui, la situation a bien changé. Elle voit beaucoup plus de monde dans sa boutique et notamment la génération de Greta Thunberg comme elle l'appelle. Je vous laisse donc découvrir cette histoire de Florence Ancry qui nous explique un petit peu comment elle a fondé les savons de Raphaël.
Alors c'est un procédé pour faire du savon sans faire cuire le savon tout en respectant les propriétés des huiles et des beurres qui sont les matières premières des savons. Donc le savon n'est pas cuit contrairement à un savon d'Alep ou un savon de Marseille. J'utilise dans mes savons, enfin ce que je mets dans mes savons, du beurre de karité et d'huile de coco. On fait fondre ces beurres, le beurre de coco et le beurre de karité. Et une fois qu'ils sont à température ambiante, on fabrique le savon. Donc le savon est fabriqué à peu près à 35 degrés, ce qui est très respectueux des matières premières en fait. Puis, à l'origine, je suis parisienne, j'ai décidé d'aller vivre à la campagne et que je trouvais que la cosmétique à l'époque, il y a 10 ans, était encore un petit peu trop basée sur le plastique, la consommation à outrance. Et je voulais revenir, c'est un produit très simple qui avait fait des preuves depuis des millénaires. Donc un retour à des choses beaucoup plus simples et de bonne qualité, en utilisant le plus possible du local. J'ai fait des savons pour moi, pour offrir, et puis après j'ai fondé ma société. Exactement, en fait, en commençant par des savons, et puis tout doucement, les clients ont demandé un petit peu plus, et j'ai ouvert à d'autres produits. Il y a des baumes corporels qui sont utilisés donc pour le corps et pour le visage, qui sont dans des bocaux en verre, donc recyclés, il y a une consigne, on ramène les pots, et la personne soit déduit de la consigne du pot précédent, soit on lui rembourse, elle ne veut pas reprendre un pot. Des shampoings solides, des dentifrices solides et des déodorants solides également dans des pots en verre recyclés. Point de départ, il y a 10 ans, le savon n'était même pas considéré, donc on m'a un petit peu pris pour une extraterrestre. Et puis comme le savon, au bout d'un moment, et que Mayenne est petit, ça s'est fait connaître, des gens qui avaient des problèmes de peau en avaient beaucoup moins, des gens qui voulaient un retour à des choses plus naturelles, sans phtalates, sans CMR, ce sont des produits qui quand même sont maintenant très, très contestés, voire interdits. Ah là, c'est flagrant, puisque j'ai un recul de 10 ans. On va dire que maintenant, le savon est devenu, entre guillemets, mode. Les gens s'aperçoivent de l'inutilité de la consommation et du plastique et des dégâts du plastique. Donc il y a une véritable recherche de faire mieux, de consommer mieux, local aussi, puisque je mets aussi beaucoup de produits locaux quand je peux les incorporer au savon, comme du miel, du lait, des poudres qui sont plus locales. Eh ben, j'ai plusieurs savons. Il y a le lait de foin de Mathieu Virfollet de Mayenne. Il y a le miel de Change Netteux. Il y a les laits de brebis du Carré d'Ouaille. Il y a la spiruline de Cran. Le lait de chèvre également, de Saint-Cyr, de près Saint-Cyr en paille, je crois.
Et autant de produits locaux que vous pouvez donc retrouver dans la fabrication de ces savons, les savons de Raphaël à Mayenne. Demain, on partira sur un tout autre geste écologique, plutôt du coup là sur donner une deuxième vie à vos objets d'électroménager, mais pas seulement.
L'univers continuera sans nous. Et les villes deviendront des forêts. Sous la pluie, des millions d'animaux. Dans le ciel, des nuées d'oiseaux.
Parmi les nombreuses initiatives mayennaises, on zoome aujourd'hui sur le Repair Café, proposé à Mayenne ce samedi. Après un an d'arrêt à cause de la crise sanitaire, l'association Les Possibles a choisi de remettre en place le rendez-vous, présenté par Sandrine Maioni, animatrice socioculturelle de l'association Les Possibles, donc à Mayenne.
Le principe d'un Repair Café, c'est un atelier de réparation, où on y trouve des personnes qui sont expérimentées dans des compétences concernant des appareils électriques, mécaniques, informatiques, numériques, petit mobilier également, mais aussi le vélo et atelier aussi couture, éventuellement en fonction des intérêts de chacun. En fait, c'est surtout un projet de réparation solidaire où il y a quand même cette mise en lumière d'une dimension économique et en même temps environnementale où l'ère du jetable en fait est en pleine expansion en fait dans notre société actuelle. L'idée, c'est de donner en fait une seconde vie aux objets qui sont emmenés. L'atelier ne garantit pas à 100% la réparation. L'intérêt de cette rencontre, de ce type de rencontre là, c'est avant tout l'échange, le partage de savoir, de connaissances et même d'astuces. Il y a certes la phase de diagnostic et on viendra sans doute peut-être en fonction de l'objet emmené la réparation, mais c'est surtout dans l'idée d'apprendre aussi au démontage, d'apprendre à comment fonctionne en fait réellement l'appareil et puis justement entendre aussi les éventuelles astuces des uns et des autres présents à ce même lieu à l'instant où l'objet est là quoi. Une dame s'était manifestée auprès de l'association Les Possibles avec un problème de lecteur DVD. Donc le lecteur DVD ne marchait pas selon elle et en fait il s'avère qu'après diagnostic de l'un de nos réparateurs bénévoles, en fait c'était un problème de câble tout simplement et de branchement. Donc l'appareil fonctionnait très bien mais de la phase de diagnostic, voir comment elle l'utilisait, en fait il en est venu que l'appareil n'avait pas de souci en soi et que c'était uniquement le branchement qui était en fait défaillant avec le câble le plus approprié. Donc ça peut être en fait des choses comme ça. Ou un autre exemple, du calcaire mis dans un appareil électroménager. C'est de se dire, je démonte, je nettoie et je fais en sorte de l'entretenir et en fait, il redémarre. Il y a ce côté fierté, évidemment, déjà, pour et les réparateurs et la personne qui vient, qui dit, c'est chouette, quoi, ça a été réparé. Oui, il y a ce côté-là, il y a cette dimension-là de fierté. On apporte sa pierre à l'édifice. Et puis d'ailleurs, l'un des angles aussi que j'ai pas précisé de cet atelier, c'est que les personnes qui amènent l'objet ne le déposent pas tout simplement et attendent. Il y a vraiment une participation.
Alors là, il y aura peut-être un autre volet parce que l'ouverture qui aura lieu samedi, on verra hein, comment, parce que chacun a un rapport différent avec bon le virus. Évidemment, on mettra en place le protocole le plus adapté possible avec la mise en place de manugels, le port du masque et la distanciation physique. Mais l'idée quand même, c'est de se mettre à la réparation et faire avec. Il y a cette idée-là, il y a cette approche-là qui est très importante. Le fait de faire, parce que c'est de se dire aussi que la personne qui vient avec l'objet, bah, le lendemain, elle sera seule chez elle avec cet objet. Donc, à elle aussi de voir, de tester, d'expérimenter pour après, quand elle sera seule avec l'objet, s'organiser au mieux, quoi.
Sur les courses alimentaires pour éviter de générer trop de déchets et notamment trop de déchets plastiques. Angèle Fournier a ouvert mi-novembre l'épicerie zéro déchet La Glanée à Laval. Pour cette ancienne assistante familiale, la reconversion professionnelle s'est faite naturellement.
Moi déjà dans mon quotidien, j'étais déjà investie dans le zéro déchet. Du coup, je souhaite aussi transmettre à certaines personnes, sensibiliser les personnes au zéro déchet, à réduire ces déchets. Ça semble très important aujourd'hui, et puis du coup surtout aussi en limiter tout ce qui est plastique. Donc si vous avez l'occasion de venir au sein de l'épicerie, vous verrez qu'il y a très 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 peu de plastique, et c'est ce que je souhaitais. Alors du coup, vous pouvez y trouver en arrivant en fait toute la partie alimentaire, donc des produits en vrac. Les personnes rapportent eux-mêmes leurs contenants, ou il y a évidemment des sachets craft à disposition, ou des bocaux propres qui sont remis par les clients. D'ailleurs, c'est un échange donc que je relave évidemment avant de remettre en circulation. Il y a également des œufs, donc pareil, les boîtes à œufs, ce sont les clients qui les rapportent, ce sont des dons. Ce sont la cosmétique en fait, sans boîte, sans voilà, des produits tout nus comme je les appelle. J'essaie de fonctionner un maximum local avec les producteurs et les créateurs de la Mayenne. Donc tout ce qui peut s'acheter proche de chez nous, c'est ce qui m'apporte aussi énormément, et de mettre aussi en valeur le travail des producteurs. Les biscuits sucrés salés de Gourmandise Permise à l'huisserie. J'ai les biscuits sucrés salés aussi de 42 Délices à Saint-Germain-en-Auxerre. J'ai les savons et shampoings de Sassé Nature, donc de Pascal Guerrier à Sassé. J'ai également la gamme de cosmétiques des savons de Raphaël à Mayenne. J'ai des bijoux de poule d'eau qui est également local. Tout ce qui est jus et bière, donc c'est la BAM qu'on connaît, qui sont assez célèbre aujourd'hui en Mayenne. J'ai aussi tous les produits, une grande partie en tous les cas des produits de la Maison du Sureau à Sougeais. J'ai commencé le 17 novembre, donc c'était vraiment quelques semaines avant Noël. J'ai commencé sur le chapeau de roue. C'est vrai que c'est eu un très très bon mois de décembre, ça a été très animé et j'en suis ravie. On voit bien que les gens reviennent à la source en fait et se tournent vraiment vers les produits locaux. Alors j'ai mis en place avec Emmaüs un partenariat, donc en fait, et un brocanteur d'ailleurs, donc Steve Brocante. Tous les deux, en fait, me fournissent en meubles, donc j'ai la chance de pouvoir me rendre sur place chez Emmaüs et pouvoir choisir les meubles dont j'ai besoin pour la boutique. Donc, pareil pour le brocanteur, il me propose en fait des articles et je leur émets aussi ce dont j'ai besoin, voilà, de la verrerie, des luminaires, du meuble, tout ce qu'on peut trouver en fait chez Emmaüs et un brocanteur. Ça fait 3 mois que je suis ouverte. Je peux avoir déjà un petit recul sur le type de clientèle. Donc effectivement, c'est des Lavallois. Des clients en fait qui sont aussi dans le centre-ville, ça leur évite de sortir à l'extérieur. Une clientèle de quartier. Donc je dirais que les clients ont entre 25 et 80 ans à peu près. Il y a vraiment tout type d'âge. Les anciens en fait retrouvent le vrac et sont vraiment ravis de trouver des produits locaux en fait au bas de leur porte s'ils habitent pas très loin, quoi.
Sur quoi danseront nos enfants? Je ne sais plus. Quand nous serons d'un autre temps, d'un temps perdu, à quoi ressembleront les rues? Le temps fait peur. L'univers deviendront des forêts.
poursuit et on termine d'ailleurs notre mini-feuilleton cette semaine autour des gestes écolos du quotidien avec un autre réflexe qu'on vous propose peut-être d'adopter, ne plus jeter tous les vêtements que vous ne portez plus justement et éviter de n'acheter que des vêtements neufs. C'est la mission de la SCOP du Relais Bretagne dont Pascal Milleville est le responsable. Vous avez certainement déjà croisé ou peut-être même utilisé leurs containers dans lesquels vous pouvez déposer vêtements et chaussures que vous ne portez plus.
Nous, il y a une première étape, effectivement, qui est la collecte. Donc, on a des personnes qui vident les containers et suite à cette collecte, donc, c'est amené sur un centre de tri qui est basé, donc, à Assigné, à l'est de Rennes. Et le tri est organisé, donc, sur cet espace de tri avec des personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir, effectivement, valoriser au mieux les vêtements qui ont été déposés dans les containers. Et c'est vrai que sur notre activité textile, on a effectivement beaucoup de vêtements qui sont réutilisés en tant que vêtements. Alors soit à travers les boutiques Dingfring, donc qui sont des boutiques du réseau du Relais. Donc là, on va retrouver les vêtements de très bonne qualité, tout ce qui est neuf, quasi neuf, qu'on va réorienter vers la commercialisation locale. Donc on a effectivement une boutique à Laval. On a des vêtements qui sont revendus sur, je dirais, le standard à des prix très accessibles, avec des vêtements adultes à 5 euros ou des vêtements enfants à 2,50 €, ou d'autres vêtements de marque qu'on valorise un peu plus, mais tout en étant sur des tarifs très très intéressants par rapport à ce que pourrait coûter le vêtement de marque. C'est effectivement 5% de notre collecte qui est effectivement orientée vers les boutiques Dingfring. Ensuite, on a une autre possibilité de réemploi des vêtements, et plutôt là orientée vers d'autres pays, et entre autres l'Afrique. On a créé 3 relais au Burkina Faso, au Sénégal et à Madagascar. Et on est toujours sur du réemploi parce qu'il s'agit bien d'envoyer des vêtements qui correspondent aux besoins. On ne va pas envoyer des déchets, on ne va pas les libérer de nos déchets en France et les envoyer en Afrique. C'est bien des vêtements réutilisables pour les besoins des personnes là-bas. On a aussi des produits qui ne sont plus du tout utilisables en tant que vêtements, qu'on va là orienter plus vers le recyclage. Donc le relais a développé il y a une dizaine d'années maintenant un produit issu du recyclage textile, c'est un isolant du bâtiment. Donc un isolant textile, c'est des fibres qu'on a récupérées. Et on a en fait mis en œuvre un produit qui va permettre d'isoler les bâtiments. Et ça évite là de pomper sur les ressources naturelles. Et donc toute la partie recyclage, transformation en chiffon, ça représente un peu plus de 30%, 30-35%. Ensuite, on a quelques produits qui vont en fait servir de combustible dans les industries utilisatrices. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les CSR, donc combustibles solides de récupération. Ça ressemble un peu à des granulés qu'on pourrait mettre dans un poêle chez un particulier. Sauf que là, ça va alimenter des fours industriels, je pense aux cimenteries ou autres activités. Ça intervient également en termes environnementaux parce que ça permet de moins consommer d'énergie grise. On arrive à valoriser en fait 99,5% de ce qu'on a collecté, c'est-à-dire qu'en termes de déchets, il nous reste que 0,5%, ce qui est vraiment très faible. Alors on essaie de viser le zéro, mais il y a quand même quelques produits où on a des difficultés pour les recycler, je pense particulièrement au PVC. Et nous qui sommes en Bretagne, l'exemple concret c'est le ciré jaune. On a quelques problèmes quand même pour le recycler, parce que c'est quand même un produit qui est issu du pétrole et c'est quand même assez compliqué à traiter derrière.
So
cette semaine, on vous emmène dans les pas de Fanny Chauvet, ou plutôt dans son atelier à Bouessay, puisqu'elle y est restauratrice de tableaux, l'une des rares du département. Accompagnée de sa collègue Griselda, elle donne vie à des tableaux plus ou moins abîmés par le temps. Visite de l'atelier avec Fanny Chauvet.
Alors, il y a beaucoup de tableaux, il y a aussi quelques panneaux, donc des tableaux peints sur bois. Un peu de cadres, même si je ne restaure pas des cadres, c'est vrai que voilà, ça m'arrive de les nettoyer ou de travailler avec des collègues qui les restaurent. Donc on a à la fois des tableaux de la Sarthe, de la Mayenne bien sûr, de la Manche, de l'Eure-et-Loire. Voilà, je travaille beaucoup avec les monuments historiques, donc c'est des tableaux qui se trouvent dans les églises. Et là on a à la fois, alors j'ai pas mal de 17e siècle en ce moment. Mais il y a aussi un petit peu du 19e, du 18e, et puis tout ce qui est plutôt portrait, paysage. Alors ça, c'est plus les particuliers. C'est vrai qu'au départ, c'est plutôt les conservateurs qui me contactent, donc avec qui on se connaît depuis pas mal de temps. Donc les conservateurs à la fois départementaux, donc on appelle ces conservateurs des CAOA, des antiquités et objets d'art en fait. Et puis les conservateurs aussi régionaux, qui sont les conservateurs des monuments historiques, donc qui sont à la DRAC. Et donc dans les Pays de Loire, en fait, il y a deux conservatrices. Donc souvent, ça passe par eux, pour tout ce qui est monuments historiques. Et sinon, après, c'est les particuliers donc qui me trouvent soit dans les pages jaunes, soit bouche à oreille, soit voilà. Donc là, c'est vrai que j'en ai eu un peu plus de particuliers avec le confinement. Sinon, je travaille à 80-90% quand même avec les monuments historiques et aussi un peu les musées. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de cas de tableaux qui n'étaient pas restaurables. Là, j'ai eu des cas qui étaient vraiment assez importants. Alors en ce moment, je pense que le cas le plus important à l'atelier, c'est un tableau dans la Sarthe, donc il y a un tableau de Courtillet, qui était aussi très abîmé et très lacunaire. Par chance, c'est un tableau aussi qui, la scène principale est quand même en entière, et c'est un tableau qui est en fait d'un autre tableau. C'est vrai que nous, dans notre métier, en fait, on a deux parties. Normalement, on est conservateur-restaurateur. C'est-à-dire, on a la partie conservation, c'est tous les traitements qui vont faire en sorte de stabiliser l'œuvre et de la rendre pérenne dans le temps. Donc ça va être par exemple refixer des écailles pour pas perdre de couche picturale, réparer des déchirures, des interventions qui sont essentielles pour la sauvegarde de l'œuvre. Et après, on a la partie plus restauration, qui sera plus la partie esthétique, les traitements esthétiques qui seront plus du dévernissage, des masticages, des retouches, pour remettre en valeur en fait l'œuvre et lui redonner une bonne lisibilité. Dans le cas, par exemple, d'incendie, il y a des fois, c'est possible, si la toile brûle, là, j'ai un tableau aussi qui a brûlé. Donc, la toile, par contre, est en bon état. En revanche, la couche picturale, il y a eu des cloques qui sont tombées et après, ça a été repeint. Heureusement, les lacunes sont quand même encore bien situées et ça n'a pas brûlé partout. Mais après, il y a des fois, on ne peut pas faire des miracles aussi. Par exemple, sur ce tableau brûlé, on verra qu'il n'a pas une texture lisse. On verra quand même ce côté un petit peu cloqué. Mais il sera quand même stable dans le temps et on pourra quand même le percevoir mieux que ce qu'il était après avoir brûlé. Pour les particuliers, des fois, c'est 4 heures parce que ça sera un petit dévernissage et voilà. Et puis là, j'ai des tableaux, c'est 260 heures de travail. Sachant que on ne va pas faire 260 heures d'affilée. On travaille toujours sur plusieurs tableaux à la fois. Donc j'ai des périodes où je fais que du support, vraiment de la conservation. Et puis des périodes où après, je fais que de la restauration.
Et demain, on va s'intéresser un peu plus en détail au parcours de Fanny Chauvet entre l'Égypte, la Belgique et donc la Mayenne.
C'est vrai que nous, c'est une formation de 5 ans après le bac. Et donc c'est vrai que dans notre formation, on a à la fois de l'histoire de l'art, de la chimie, des techniques, des matériaux. Donc nous, c'est vrai que la première année, c'est vraiment plus une année qui est technique, où on apprend vraiment, par rapport aux panneaux, par exemple, les différentes coupes de bois, les préparations, les différentes essences, la technique de la peinture à l'huile, la technique de la tempère. On apprend vraiment tout ça et on pratique aussi, on fait vraiment ça. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait mon école à Bruxelles, c'est vrai que c'est à la fois toile et panneaux. Les deuxième et troisième années, on est plus dans la restauration de toiles. Et après, quatrième et cinquième, on est plus dans la restauration de panneaux.
Vous avez toujours voulu faire ça ?
C'est vrai que j'aimais beaucoup, je peignais beaucoup et tout ça. Enfin, depuis jeune, j'ai quand même eu un peu plus une formation académique. Je m'étais plus dirigée au départ vers une formation artistique. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un dans le village où j'habitais, chez mes parents, qui en fait faisait ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est rigolo parce que maintenant, on se revoit de temps en temps. C'est un collègue qui est dans la Vendée. Et du coup, c'est rigolo, on se revoit. Il est plus âgé que moi, mais Ouais, c'est un peu lui, ça. Je me suis dit, c'est super parce que ça lie. Alors, c'est pas vraiment créatif parce que je peins pas, mais c'est vrai que c'est d'être en contact, voilà, avec des œuvres, voilà. De... Et puis, ça reste quand même un métier très manuel où il y a quand même une partie où il faut savoir, retoucher, faire des choses, voilà, assez précises. Donc, c'est vrai que ce côté-là me plaît beaucoup. Ouais. Souvent se remettre en question parce que des fois, de toute façon, c'est bien aussi d'avoir ces échanges et à la fois avec les conservateurs, historiens de l'art, communes, tout ça, pour savoir un peu sur l'histoire, mais aussi avec des collègues. C'est vrai que moi, je m'entends très bien avec mes collègues qui sont à la fois en Sarthe, un peu en Loire-Atlantique. Voilà, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, même je fais partie d'une fédération aussi, voilà. Et c'est vrai qu'on, c'est intéressant parce que des fois, on se pose des questions et c'est vrai que c'est on fait des formations aussi régulièrement aussi pour essayer de rester à jour et voilà, de connaître des nouveaux produits, les tester. Enfin voilà, c'est bon, en même temps, ça fait quoi? Ça fait 12 ans, je crois, que je suis installée en Mayenne. Alors, dans ce premier temps, je faisais aussi pas mal de peinture murale aussi avec d'autres collègues. Et puis après, ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans, peut-être 9 ans quand même, que j'ai mon atelier donc ici et que je suis plus revenue à ce qui était vraiment ma formation et plus ce qui me plaisait aussi au niveau des tableaux. Enfin, j'avais fait une licence d'art plastique et puis après, j'ai fait mon école. Donc, on rentre aussi sur concours. Et après, en fait, j'ai eu la chance de travailler au temple de Karnak, donc en Égypte. Et là, j'ai pu se faire des restaurations d'objets archéologiques et même de sculptures, donc grès, en calcaire. Et je suis restée 3 ans et demi là-bas. Donc, c'était super parce que c'était une super expérience aussi au niveau du chantier, au niveau humaine aussi. Puis après, c'est vrai que je suis plus revenue. Au départ, je suis originaire du Sud, donc je suis plus revenue travailler en peinture murale dans le Sud. Et puis, j'ai une collègue qui m'a proposé, qui maintenant est partie, mais qui était installée à Sablé, et qui m'a proposé après de venir l'aider ici. Et voilà, donc dans ce promenant, je l'ai aidée un petit peu. J'ai aidé une autre collègue aussi qui travaille à Tours et qui travaillait pas mal par ici en mural. Et après, voilà, du coup, en ayant des enfants, c'était quand même plus facile. Et puis, c'est vrai que je préférais quand même aussi le tableau. Donc, c'est vrai que je suis. J'ai décidé de monter mon atelier.
Atelier où elle use de différentes techniques, bien sûr, pour redonner vie à ses tableaux, même les plus abîmés. Toutes les explications à retrouver dans l'épisode de demain.
Je travaille avec des pigments et un liant que je fais, soit avec des couleurs qui sont déjà préparées, ça peut être des gamblines. Pour nous, c'est, alors les couleurs, c'est, moi, ça ne me pose pas tellement particulièrement de problème. C'est plus les noirs. Les noirs, des fois, c'est terrible. Quand on a, vous voyez, par exemple, j'ai des tableaux qui sont un peu avec des fraises et tout ça, un peu primitifs flamands. Ça, les fonds, les habits noirs et tout, c'est un peu plus compliqué parce que au niveau des noirs, c'est pas facile d'y voir déjà, parce que nous, on sature beaucoup. D'abord, on met un vernis avant de retoucher très brillant pour vraiment bien saturer les couleurs et y voir. Mais sur le noir, c'est pas facile, donc il faut pas essayer de s'habiller un peu foncé pour pas se refléter dedans. Et voilà. Et puis après, il y a toujours des noirs colorés, des noirs chauds, des noirs froids. Donc ça, c'est toujours un peu, je trouve, le plus compliqué souvent. Nous, c'est vrai qu'on a un peu le nez dessus. Parfois, les lunettes loupent et des choses comme ça. Après, c'est vrai que nous, on voit aussi... on travaille toujours en collaboration, notamment pour les monuments historiques, avec les conservateurs qui, eux, sont plus spécialisés en histoire de l'art et qui connaissent plus sur l'histoire du tableau. Nous, c'est vrai qu'on est plus des spécialistes le côté matériel de l'œuvre. On va déjà l'étudier, on va déjà faire un constat d'état. Donc, on peut voir aussi quelle facture il a, comment il a été conçu, quelles sont ses altérations. Et après, on va faire des propositions de traitement. Donc, c'est vrai que nous, ce qui est important, c'est de vraiment essayer de traiter... le plus spécifiquement possible un cas, enfin pas du tout être dans le systématisme pour que ce soit le meilleur traitement possible pour le tableau qu'on a à traiter. Donc on fait vraiment du au cas par cas. C'est vrai que c'est quand même un métier qui est très manuel. Hein. À la fois, c'est intéressant parce que il y a aussi avant de vraiment attaquer sur le tableau toute une réflexion de comment on va procéder, quels produits on va utiliser, pourquoi. Donc ça, nous, avant même d'en parler même au conservateur, c'est important de nous qu'on se pose les questions de savoir quoi choisir, quel produit. Après, ça peut arriver aussi quand on fait des devis, on propose quelque chose et finalement, ça ne fonctionne pas. Ce qui est possible aussi, ça m'est arrivé quelques fois. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on se réunit, on se dit, j'ai eu plusieurs tests, finalement, il faut mieux partir sur ça parce que ça fonctionne mieux et c'est plus adapté. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours un peu se remettre en question et tout ça. Quand on travaille sur un tableau, on est souvent amené à la voir à la fois à plat et à la fois vertical. Donc vous voyez, ce qui est bien à l'atelier, c'est qu'à la fois j'ai une grande surface au sol avec une grande table, donc je peux travailler à plat, mais aussi dans le fond de l'atelier, j'ai presque 4 mètres de hauteur de plafond, parce qu'aussi on travaille aussi en ayant le tableau en vertical. Donc c'est que le support, on va souvent travailler le tableau à plat, donc pour notamment retirer le châssis. Alors soit on va renforcer le tableau, on va mettre une autre toile au revers, par exemple faire un doublage ou un toilage, soit quand c'est le support en meilleur état, on pourra mettre des bandes de tension, donc c'est surtout le pourtour pour le retendre. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut travailler à plat. Mais après, pour tout ce qui est restauration au niveau de la retouche, choses comme ça, il faut qu'il soit debout, donc soit contre un mur, soit sur un chevalet. Donc aussi, on utilise des fers, des petites spatules chauffantes. Et alors, soit on peut aller directement au fer, soit on a des grandes tables qui chauffent et qui aspirent pour que ce soit plus régulier.
Et demain, Fanny Chauvet nous expliquera comment elle fait avec des tableaux très abîmés qui ont même certains des visages inexistants.
Il y a vraiment un personnage, par exemple, qui n'a plus de visage, on ne va pas forcément reconstituer, surtout si on n'a pas de, si ce n'est pas une copie ou si on n'a pas de photo d'avant ou choses comme ça. Donc, on va proposer des tons de fond. Voilà. Après, si jamais on a un document, on peut peut-être proposer une reconstitution, mais alors ça pourrait être avec des petits traits, ça pourrait être avec des petits points. Donc, pour que quand on s'approche, on voit la retouche et que de loin, ça s'intègre parfaitement pour pas qu'on. Voilà. Ce qui est important dans notre métier, c'est d'avoir une déontologie par rapport à l'œuvre, donc qui doit à la fois respecter l'original. Donc c'est vrai que souvent on me dit « Ah ben vous repeignez !» Je dis « Ben non, justement, non, on repeint pas !» On enlève vraiment, voilà. La plupart des tableaux que je restaure sont quand même restaurés. On a déjà été restaurés auparavant. Et c'est vrai qu'on n'avait pas la même déontologie. Alors maintenant, c'est vrai qu'on doit utiliser des produits qui sont à la fois stables dans le temps, mais qu'on peut enlever. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, pour les suivants, c'est bien qu'ils puissent quand même pouvoir enlever la précédente restauration, déborder sur l'original, l'abîmer, le couper l'œuvre. Enfin voilà, il y a des choses qui ont été aberrantes, qui ont été faites. Et puis, qu'on voit toujours aussi ce qu'on a fait. Et si on ne voit pas, qu'il y a toujours un rapport. Nous, on fait toujours un rapport, donc des photos avant, pendant, après. Et on a un rapport d'intervention où on explique tout ce qu'on a fait, quels produits on a utilisés. Quand je parle souvent de ça, il me dit « mais c'est pas logique ». Je dis « mais oui, mais... » souvent, on ne comprend pas la notion de réversibilité associée avec la stabilité. Parce qu'on se dit « oui, s'il faut que ce soit stable, il faut que ce soit solide et tout ça ». Mais voilà, donc nous, il faut qu'on jongle avec ça. Alors après, c'est vrai que nous, on est souvent dans le cas où le tableau a déjà été restauré. Et quand il a été restauré, donc je ne passe pas des restaurations qui ont 20-30 ans, je parle vraiment des restaurations plus anciennes, beaucoup 19e, eux ils ne se posaient pas la question, et c'était souvent par exemple on me dit « ah mais tu ne retouches pas à l'huile ?» Je dis « ben non, je ne retouche pas à l'huile parce que la peinture à l'huile, quand bien même les tableaux sont, la plupart de ces tableaux ne sont pas à l'huile, c'est, avec le temps ça ne devient pas réversible. » Donc ça veut dire que c'est des tableaux par exemple qui ont été repeints, ils préféraient repeindre carrément un pan. Sauf que après pour enlever la peinture, c'est super dur, super costaud, donc ça veut dire que nous, on vient à la fois avec des solvants et des scalpels, pour enlever ça mécaniquement et chimiquement. Et aussi, ça peut abîmer aussi. Il y a des cas où on ne peut pas clairement retirer le repeint parce que sinon, on risque d'abîmer la couche picturale quand bien même elle est en dessous. L'idée, en fait, c'est que s'il y a une lacune importante, quand bien même on ne va pas l'intégrer de façon illusionniste, l'idée, c'est de la faire qu'elle ne vienne pas en avant. Alors celui-là, par exemple, au niveau des anges, donc en fait, en le nettoyant, donc c'est un tableau qui a été quand même beaucoup repris à la base. Il est 17e aussi, mais il a été beaucoup repris 19e, en fait. Sauf qu'en dessous, il n'y a plus d'original. Donc en fait, là, la seule partie vraiment originale, c'est la partie au niveau du paysage. Les anges, au départ, ils étaient dans le ciel, ils étaient en fait sur un fond marron. Et en fait, en nettoyant, on a vu qu'il y avait des nuages. Donc là, je suis en train d'harmoniser un petit peu les nuages. Donc le bas, j'ai un peu commencé. Donc je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai fait une retouche au petit trait. Enlever un petit peu le côté vibrant qu'on peut voir en haut et qui est, qui sont des usures et des choses comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux et d'essayer d'intégrer ce qui reste d'original avec ce qui a été... Alors pareil, sans repeindre, mais disons qu'on fait un peu par étapes.
Demain, le 5e et dernier épisode est consacré à la restauration d'un tableau de Saint-André qui a été retrouvé à Sauges, à l'histoire assez rocambolesque, vous l'entendrez.
en fait, il avait été stocké là il y a très longtemps. Et en fait, il avait été enlevé de son châssis, et puis plié, et puis déposé dans le grenier de la mairie. Sauf qu'après, bah, personne n'a donné l'information. Et du coup, à chaque fois que les élus allaient dans le grenier, ils s'essuyaient les pieds là-dessus, en fait. Heureusement, ils ont quand même, à un moment donné, ils ont vu qu'il y avait de la peinture. Et là, c'était quand même un petit peu angoissant pour eux de vous découvrir ça. Mais en même temps, ils y étaient pour rien. Enfin voilà, on ne peut pas savoir non plus. C'est un tableau, donc c'est les pèlerins d'Emmaüs, en fait. C'était d'après une copie de Titien. Alors, c'est un tableau donc, qui est quand même une copie inspirée d'eux. Donc, elle est quand même un peu différente. Mais c'est cette différence aussi qui lui a permis d'être protégée et du coup d'obtenir des subventions pour aussi être restaurée. Parce que dès que les tableaux sont soit inscrits, soit classés, donc dès qu'il y a une protection, ils peuvent être aidés à la fois par le département et par la région pour être restaurés. Surtout sur des tableaux comme ça, au niveau des heures, c'est beaucoup d'heures. Parce que voilà, là, par exemple, j'ai eu énormément de reconstitutions. Cicage retouche, c'était énorme, il y avait beaucoup de manque et tout. Alors, il y avait un petit manque, il y avait un petit chien sous la table. Alors, c'était chouette parce que j'ai pu m'inspirer pour le coup. Là, j'ai reconstitué la partie du museau parce que je me suis inspirée du tableau de Titien. Non, ça ne m'a pas inquiétée parce que j'ai vu que justement, ce qui était bien, c'est que pour moi, c'était une toile aussi assez ancienne aussi. Sa qualité de départ au niveau des matériaux a fait qu'elle a quand même bien résisté dans le temps. Donc c'est vrai, quand on l'a vu, il y a plein de petites écailles au-dessus qui se baladaient et tout, c'était quand même assez catastrophique. Je voyais déjà aussi qu'est-ce qui allait être reconstituable. C'est vrai que maintenant, ils sont contents, oui, du coup, dans l'église et tout ça. Il y a eu un cadre aussi qui a été fait pour lui et tout ça, qui a été doré aussi. Du coup, j'en ai un autre à restaurer pour eux, donc c'est que ça, ils ont dû être contents. Donc là, en ce moment, j'ai un Saint-André pour eux aussi, qui est 18e. Alors, je n'ai pas beaucoup de tableaux 18e. Donc je suis contente d'en avoir un. En plus, il est signé et daté, donc c'est vrai que de suite ça donne plus de valeur aux œuvres. Souvent, les œuvres en fait des monuments historiques dans les retables, la plupart du temps, ne seront pas signées en fait. Hein. La plupart de ces œuvres seront pas dans un cadre muséal, donc seront dans des églises. Et puis, dans les églises, il y a des églises où le climat varie beaucoup, aussi bien l'humidité que la température. Des fois, il y a des chauffages, il y a des églises qui sont chauffées. Enfin, ce qui est mauvais pour les tableaux, c'est vraiment les gros changements de température et d'hygrométrie. On essaie toujours de quand même mettre des consignes aussi, de donner des consignes après une fois qu'on remet en place les tableaux. Il ne faut jamais mettre aussi un tableau près d'une source de lumière ou de chauffage ou de choses comme ça, parce que voilà, oui, c'est logique aussi. Chauffage, ça ne fait pas toujours du bien. C'est bien pour les personnes qui vont à l'église, mais un peu moins bien pour les tableaux et les œuvres qui y sont, voilà. Il faut aussi comprendre que ça reste quand même des lieux vivants, quoi. Voilà, qu'on continue à aller dans les églises, dans tous les cas, que ce soit pour le culte ou pour l'art. Et puis, de plus en plus, les communes et puis les conservateurs aussi, quand même, font attention justement, parlent plus de la conservation. Il y a plus des gens aussi dans les communes qui savent déjà un petit peu comment procéder. Et puis voilà, appeler quand même les personnes aussi dont c'est le métier. Parce que voilà, aussi, des fois, il y a des catastrophes qui arrivent. On a entendu parler aussi de personnes qui, croyant bien faire, font des choses qui sont... ou mettre des petits coups de chiffonnette sur les tableaux. Il y a des choses, des choses, c'est pas forcément gênant, et des choses, ça va être pas terrible pour l'œuvre.
Agité du mois.